Peut-être que ça fait un moment que vous vous tâtez et vous vous demandez si l'achat d'un ou deux esclaves serait un bon investissement pour votre famille. Ou bien peut-être que vous avez le projet de vendre une de vos filles comme esclave à un ami de l'Église et vous vous demandez quelles sont les obligations auxquelles votre acquéreur devra se plier. Ou bien peut-être que vous avez offert une femme esclave à votre fils pour son anniversaire, mais qu'elle ne lui plaît pas. Et vous vous demandez si vous pouvez l'échanger contre une autre ou bien peut-être vous faire rembourser. Et si c'est le genre de question que vous vous posez en ce moment, mes amis, eh bien sachez que vous avez vraiment bien fait de venir aujourd'hui parce que c'est précisément à ce genre d'interrogation que répond le texte qu'on va lire et étudier ensemble cet après-midi. C'est génial, non ? Dans la Bible, on a parfois, voyez-vous, des passages dont la pertinence pour notre temps n'est pas, évidente. Et manifestement, c'est le cas du passage d'aujourd'hui qui fournit des règles censées encadrer la pratique de l'esclavage. Alors que mercredi dernier, le 10 mai, c'était dans notre pays la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Ben alors peut-être qu'il faut sauter tout simplement ce passage, ces quelques versets, et passer directement à la suite, puisque clairement on n'est plus concerné. Mais j'espère que vous allez voir cet après-midi que malgré tout, le passage qu'on va lire a une très grande pertinence pour nous. Aujourd'hui, il faut comprendre que lorsque la Bible parle de l'esclavage, elle parle de la relation entre deux classes de personnes situées à des endroits très différents de l'échelle sociale. Et donc, ces passages nous permettent de comprendre, au-delà de la question précise de l'esclavage, de la relation entre les maîtres et les esclaves, ou les maîtres et les serviteurs, au-delà de ça, ce type de passage nous permet de comprendre plus généralement ce que Dieu pense de la relation entre les plus puissants et les moins puissants dans la société. Dans la mesure où, et j'imagine que c'est le cas, dans la mesure où il y a parmi nous, cet après-midi, eh bien, des patrons et des employés, des cadres et aussi des ouvriers et des stagiaires, des personnes aisées, des personnes moins aisées, des parents et des enfants, des personnes valides et des handicapés, des gens bien portants et d'autres qui sont malades, des jeunes, des moins jeunes, des Français et des immigrés. C'est le cas ? Vous appartenez à une de ces catégories que j'ai citées ? Alors écoutez bien ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui concernant la relation entre ces différentes classes de personnes. Et rappelez-vous, avant qu'on fasse cette lecture, rappelez-vous que nous sommes dans une section du livre de l'Exode. Le livre de l'Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. C'est un livre qui appartient à l'Ancien Testament, qui a été écrit par Moïse, donc il y a très 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 longtemps. On est dans une section de ce livre où Dieu veut montrer à son peuple en quoi la vie des croyants doit se distinguer de la vie des autres, des non-croyants. Pour les Israélites à cette époque-là, c'était la vie des peuples environnants. En quoi leur vie, en tant que croyants, en tant que peuple de Dieu, peuple de l'Éternel, devait se distinguer de la vie des autres peuples. On en a parlé déjà un peu la dernière fois, quand on a regardé ces fameuses 10 paroles, qu'on appelle généralement les 10 commandements, et on a pu discerner à partir de ce texte et de son contexte, que Dieu appelait son peuple à une motivation à part, une pratique à part et aussi une attitude à part, qui les distingue des autres, d'accord ? Donc on est dans une section du livre de l'Exode, on est encore dans ce thème-là, dans cette préoccupation-là. Et voici ce que Dieu veut nous faire comprendre ici en particulier, dans le texte qu'on va lire. C'est qu'en tant que chrétiens, nous sommes censés défendre l'intérêt des gens qui sont plus vulnérables que nous. C'est une des choses qui doit nous distinguer. En tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, nous devons défendre l'intérêt des gens qui sont plus vulnérables que nous. Alors voyons comment ce texte nous en parle à travers la question donc de l'esclavage. Il s'agit du livre de l'Exode, donc chapitre 21, et les versets 1 à 11. C'est le début d'une section qui va couvrir 3 chapitres du livre de l'Exode et qu'on appelle traditionnellement le livre de l'Alliance. C'est un recueil de lois qui sont en fait l'application pratique des 10 commandements à différentes situations de la vie. Là, en l'occurrence, appliquées au domaine de l'esclavage. Exode chapitre 21, versets 1 à 11. Voici les ordonnances que tu placeras devant eux. C'est Dieu qui parle à Moïse. Hein, ici. Lorsque tu achèteras un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'elle lui ait enfanté des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et lui sortira seul. Si l'esclave affirme « J'aime mon maître, ma femme et mes fils, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le fera approcher de Dieu, il le fera approcher du battant ou du montant de la porte, son maître lui percera l'oreille avec le poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Lorsqu'un homme vendra sa fille pour être esclave, elle ne sortira pas comme sortent les esclaves, sous-entendu les esclaves masculins ici. Si elle déplaît à son maître, qui se l'était destiné, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne diminuera en rien la nourriture, le vêtement et le droit conjugal de la première. S'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, avant d'aller plus loin, prions. Seigneur, nous confessons que ta parole contient des passages difficiles, des passages difficiles à comprendre, dont il est difficile de discerner la pertinence pour nous aujourd'hui, mais nous confessons néanmoins que ta parole tout entière est utile pour nous, elle est utile pour notre foi, pour notre marche chrétienne. Et nous te demandons cet après-midi de prendre ce passage en particulier et de nous aider vraiment à recevoir de toi ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous enseigner et la façon dont tu veux que nous l'appliquions à notre vie personnelle. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Alors la première chose que j'aimerais vous faire remarquer à partir de ce texte, c'est qu'aux yeux de Dieu, même les plus fragiles d'entre nous avons une extraordinaire dignité. Même les plus fragiles d'entre nous, nous avons une extraordinaire dignité aux yeux de Dieu. Alors vous dites peut-être que ça, bon bah c'est évident, on sait que même que les plus fragiles, les vulnérables, les faibles ont une dignité, surtout aux yeux de Dieu. Mais à l'époque où ce texte a été écrit, il faut comprendre que les esclaves, dans la société de l'époque, étaient vraiment considérés comme des objets. Dans le monde antique, le monde de Moïse, hein, à cette époque-là, les esclaves étaient moins que des êtres humains. Ils étaient la propriété de leur maître, hein, comme une paire de pantoufles, ou une voiture, ou une chemise, d'accord ? Ils étaient la propriété de leur maître, qui pouvait faire d'eux strictement ce qu'il voulait, puisqu'ils étaient sa propriété. Vous pouvez, si vous voulez, déchirer votre chemise, jeter vos pantoufles à la poubelle, n'est-ce pas ? Vous pouvez faire de votre voiture tout ce que vous voulez. Eh bien, on pouvait faire ce qu'on voulait de ces esclaves aussi. Mais ici, dans ce texte, qui nous présente les dispositions de la loi de l'Éternel concernant l'esclavage, nous avons ici des dispositions qui sont censées encadrer la relation entre les maîtres et les esclaves, et ces dispositions sont extrêmement choquantes, non pas parce qu'elles nous donnent l'impression que la Bible concède le principe de l'esclavage, parce que généralement, on lit ce passage et on est choqué pour ça. On se dit « Quoi ?» L'esclavage dans la Bible, Dieu il permet l'esclavage. Mais c'est pas pour ça qu'on devrait être choqué en lisant ce passage. En fait, on devrait être choqué parce que ces dispositions établissent une protection pour les esclaves. Et c'est ça qui est choquant pour l'époque, vous comprenez ? C'est ça qui est surprenant. C'est ça qui est scandaleux même. La loi d'Israël attribue des droits aux esclaves. Le droit, par exemple, de partir libre après 6 ans de service. Le droit de partir avec sa femme, s'il était marié avant d'entrer au service de son maître, et de partir avec sa femme et ses enfants. Alors il y a une petite parenthèse qui est ajoutée. S'il se marie pendant son service, alors là il doit laisser sa femme et ses enfants au service du maître. Pourquoi ? Ça, c'est pour qu'on n'abuse pas du système, vous comprenez ? Un peu comme les mariages blancs aujourd'hui. Ben, je vais me marier comme ça, on va s'arranger, et puis comme ça, tu sortiras avec moi, parce que moi je suis à ma 5e année de service, dans 2 ans... Je pars, hein, on se marie, on s'arrange. Vous voyez, c'est pour éviter que l'on abuse du système. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt pour protéger le maître. Mais elles avaient, mais les esclaves, notamment les femmes esclaves, avaient le droit, par exemple, d'épouser un non-esclave. Le fils du maître, c'était permis. Elles avaient le droit d'intégrer pleinement une maisonnée avec tous les privilèges que cela comportait. Elle avait le droit d'être la femme esclave. Parce que vous savez, ce qu'il y a pire qu'un esclave à cette époque-là, c'était les femmes esclaves. Les femmes esclaves avaient le droit pourtant d'être légalement protégées en cas de répudiation par son maître, par leur maître. Et toutes ces dispositions font passer la loi de Dieu et la loi d'Israël pour un programme politique extrêmement progressiste pour l'époque. Il faut le comprendre, ça. À l'époque, ce sont les conservateurs qui ne sont pas contents. Quoi, donner des droits aux esclaves? Mais c'est ce que fait Dieu ici. Et en lisant ce genre de texte, comme je le disais, on a tendance à être choqués, mais pas pour les bonnes raisons. Hein ? En fait, ce qui est extraordinaire, ce n'est pas qu'il y avait des esclaves dans le monde antique, mais c'est que les esclaves en Israël avaient une dignité, qui est en fait la dignité de tout être humain. Et donc nous, à notre tour aujourd'hui, nous devons apprendre à reconnaître chez tous les êtres humains cette dignité. Les êtres humains, même les plus fragiles, même les plus vulnérables, sont créés à l'image de Dieu. C'est ce que nous dit le tout début de l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, les premiers chapitres, qui nous parlent de la création de l'humanité, du premier homme et de la première femme, créés à l'image de Dieu, contrairement à tout le reste de ce que Dieu a créé. Et nous devons cultiver le réflexe de voir tous les êtres humains, même les plus fragiles, avec les yeux de Dieu. Vous savez, des réflexes, on en a parfois besoin quand on conduit une voiture. Imaginez que vous êtes au volant de votre voiture et vous prenez un virage assez serré près de chez vous, et à la sortie du virage, vous vous retrouvez nez à nez avec deux obstacles. Et vous comprenez instantanément que vous allez devoir percuter l'un ou l'autre de ces obstacles. Il n'y a pas d'alternative. Vous avez une fraction de seconde pour tourner le volant dans un sens ou dans l'autre. Et imaginez qu'un de ces obstacles, c'est votre amoureux ou votre amoureuse, tandis que l'autre, c'est le bac à ordures de la copropriété. Facile d'avoir le bon réflexe, n'est-ce pas? Mais imaginez que l'un des obstacles, c'est un voisin que vous ne connaissez pas très bien. Tandis que l'autre, c'est la Lamborghini de collection que votre grand-père vous avait léguée. Imaginez que la décision que vous devez prendre en une fraction de seconde, ce soit non pas ça, mais ce soit de percuter votre pire ennemi, ou bien le chien qui a été pour vous un fidèle compagnon pendant 10 ans. Pas facile d'avoir le bon réflexe. Mais ce que la Bible nous rappelle ici, c'est que même un esclave vaut plus qu'un chien. Vaut plus qu'une paire de pantoufles. Vaut plus qu'une chemise ou qu'une Lamborghini de collection. Même votre pire ennemi vaut plus que n'importe quoi d'autre qui n'est pas un être humain. Et à ce titre, parce qu'un esclave est un être humain, eh bien, comme tous les êtres humains, il est doté d'une dignité extraordinaire parce qu'il est l'image de Dieu, créé à l'image de Dieu. Mes amis, à chaque fois que vous avez en face de vous une vie humaine, vous avez en face de vous quelque chose d'extrêmement précieux aux yeux de Dieu. Et cette vie humaine doit être traitée avec le plus grand respect et la plus grande précaution. C'est pourquoi, d'ailleurs, la véritable traite humaine, le trafic d'êtres humains, l'esclavagisme est en fait explicitement interdit dans la loi de Dieu, et cela juste quelques versets plus loin, on ne l'a pas lu, mais au verset 16, si vous voulez regarder, c'est marqué « Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. » C'est clair. On n'a pas le droit de voler les gens. Littéralement, de les voler pour les prendre pour soi ou pour les vendre à d'autres. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont dotés d'une dignité extraordinaire en tant qu'êtres humains, image de Dieu. On verra dans un moment en quoi consistait plus précisément l'esclavage en Israël, puisqu'il ne s'agit pas de ça. Mais c'est aussi pourquoi certaines lois dans l'Ancien Testament, et on y viendra notamment la semaine prochaine, sont particulièrement sévères lorsqu'elles concernent des situations qui portent atteinte à la dignité des êtres humains ou à leur intégrité. La deuxième chose qu'on doit remarquer dans ce texte, c'est que Dieu est pour la réhabilitation de ceux qui sont devenus faibles ou vulnérables. Dieu est pour la réhabilitation de ceux qui sont devenus faibles et vulnérables. Il est pour que ces gens-là soient rétablis, restaurés dans la société. On voit dans notre passage que les dispositions de la loi de Dieu favorisent le rétablissement des esclaves dans la société. Alors, voilà, il faut comprendre que les esclaves dont il est question ici, comme je disais il y a quelques instants, ce ne sont pas des gens qu'on est allé chercher en Afrique et qu'on a arraché à leur famille et à leur pays pour les exploiter jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Et quand nous, on pense à l'esclavage, on pense à ce genre de choses, n'est-ce pas ? Non, l'esclavage dont il est question ici, et peut-être que le terme esclavage n'est pas le plus approprié d'ailleurs pour décrire à nous, lecteurs contemporains, la réalité de ce qui se pratiquait en Israël, mais cet esclavage-là, dans le contexte d'Israël, il s'agissait plutôt de gens qui étaient tombés dans la précarité, tombés dans la détresse sociale, et qui, pour s'en sortir, ont été pris comme serviteurs par un maître qui, lui, en avait les moyens. C'était une façon de travailler. Il se mettait au service de quelqu'un et de sa maisonnée, et il était logé et nourri et protégé. De même, lorsque des parents à l'époque vendaient leur fille comme esclave, c'était pas pour la punir. Peut-être qu'on pourrait tenter de menacer nos enfants. Fais attention, si tu continues comme ça, je vais te vendre comme esclave à un ami de l'église. Le pire membre de l'église, d'ailleurs, tu verras. Alors, c'était pas pour les punir, c'était pas pour se faire de l'argent, même. Hein. Mais c'était pour donner à leur fille un avenir que eux-mêmes n'étaient pas en situation de lui donner. C'était pour lui donner une véritable sécurité matérielle, sociale, que ses parents étaient incapables de lui donner. Et ce qui est intéressant, c'est que les dispositions de la loi ici visent en effet le rétablissement de ces gens qui ont été, à un moment donné de leur vie, contraints à une forme d'esclavage, de service, en raison des difficultés de la vie. Et vous savez, dans certains cas, c'était peut-être mérité, hein, ces difficultés, parce que ces gens avaient fait des choix malheureux. Et dans d'autres cas, ce n'était pas le résultat direct de mauvais choix. C'était juste, vous savez, les problèmes qu'on rencontre, les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie et qui sont imprévues et qui nous tombent parfois dessus. Le décès d'un parent, d'un conjoint, d'un enfant, la perte d'un travail, des conditions climatiques difficiles pour des agriculteurs, etc. etc. L'esclave sera libre la septième année, pourra retrouver une place dans la société qui n'est pas celle d'un esclave. Il aura pu, entre-temps, on l'espère, rembourser ses dettes, peut-être apprendre un métier. Il aura peut-être eu des enfants pendant son service, il aura consolidé sa maisonnée s'il était déjà marié avant d'entrer au service de son maître, et il sera ensuite mieux équipé, en sortant libre la septième année, mieux équipé pour retrouver la place d'un homme libre dans la société. Et les femmes esclaves d'eux-mêmes, soit il était prévu qu'elles intègrent pleinement la maisonnée où elle servait, donc par le mariage, par exemple, le mariage avec un des enfants de la maisonnée. Le texte dit qu'elle devait alors être traitée selon le droit des filles, donc selon tous les droits des autres filles de la maisonnée qui n'étaient pas esclaves, ou bien elles étaient rachetées par leur famille, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire rachetées, je te rembourse voilà, ce que tu m'as payé pour avoir ma fille. Non, racheter, ça voulait dire être rétabli, restauré dans son statut, le statut qu'elle avait auparavant auprès de sa famille. Dans tous les cas, la loi vise la sortie de la précarité et le rétablissement des esclaves. Et je vous le rappelle, les esclaves qui illustrent pour nous les gens les plus vulnérables de la société. Il n'y avait pas plus vulnérable qu'un esclave dans le monde antique. Et de même, aujourd'hui, on peut imaginer toutes sortes de gens qui sont très vulnérables dans notre société. Alors, en réfléchissant à cette réalité cette semaine, je me suis dit que cette idée de la réhabilitation, c'est quelque chose qui ne nous vient pas facilement. Enfin, peut-être que vous, ça vous vient plus facilement qu'à moi. Personnellement, je constate dans ma vie que la société de consommation dans laquelle je vis, à laquelle j'appartiens, cette société de consommation m'incite à acheter quelque chose et ensuite à l'utiliser autant que possible et le plus longtemps possible à exploiter ce produit que j'ai acheté, à l'exploiter en quelque sorte, jusqu'à ce que cette chose soit tellement usée ou tellement abîmée qu'il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est la mettre à la poubelle ou à la benne, à la déchetterie, et la remplacer. Avec le développement de la technologie ces dernières décennies, on parle même aujourd'hui de fabricants qui programment la fin de vie de leurs appareils, justement pour inciter les consommateurs à les remplacer avec un modèle plus récent. Hein, si je ne me trompe pas, on appelle ça l'obsolescence programmée. Honnêtement, c'est vrai que quand un appareil est abîmé et qu'on n'est plus dans la période de garantie de l'appareil, enfin, je vous confesse, hein, peut-être une faiblesse chez moi, je trouve qu'il est tellement plus facile de jeter l'appareil à la poubelle et d'en racheter un autre, plutôt que de devoir faire face à un certain nombre de contraintes, vous savez, des contraintes pratiques, des trucs pénibles qu'entraînerait la démarche de faire réparer l'appareil. Il faut trouver ce qui ne va pas, il faut acheter la pièce pour la remplacer, il faut peut-être faire appel à un réparateur, il faut se passer de cet appareil pendant quelques temps. C'est contraignant, vous savez, enfin, voilà, ça c'est les problèmes de notre monde développé, hein, enfin, en tout cas chez moi. Les Israélites étaient certainement tentés de considérer leurs esclaves comme ça aussi, puisque c'était bien de cette façon que les esclaves étaient traités chez les nations environnantes. Allez, on les utilise un maximum, on les exploite, et puis quand ils meurent, on en prend un autre, quoi. C'est bien comme ça que les Israélites eux-mêmes avaient été traités dans leur histoire, quand ils étaient encore en Égypte. Et les gens qui reçoivent ces textes ici, ce sont ceux qui étaient esclaves en Égypte, puisque ça se passe seulement 3 mois après leur sortie d'Égypte, ici. Mais Dieu, il ne veut pas que son peuple reproduise cette façon de faire, puisque même les gens les plus fragiles de la société ont une extraordinaire dignité en tant qu'image de Dieu. Nous, à notre tour, en tant que croyants, en tant que peuple de Dieu, nous devons défendre cette dignité et nous devons, par conséquent, chercher à réhabiliter ces gens qui sont tombés dans la précarité. Nous devons chercher à les rétablir dans la société. Mais la réalité, c'est que nous aussi, aujourd'hui, nous sommes tentés de voir les gens les plus vulnérables autour de nous comme étant obsolètes, si j'ose dire. Ouh là là, celui-là, c'est un cas désespéré. On ne peut plus rien faire pour lui, je ne vais même pas essayer. Celui-là, s'il est pauvre, c'est parce qu'il a dilapidé son argent vraiment bêtement. Maintenant, il est dans la misère, ben, tant pis, je ne vais pas me démener pour lui. Hier, j'étais à Montauban, certains d'entre vous le savez, pour le synode de notre union d'église qui se déroulait dans les locaux d'une maison de retraite. Et à un moment donné, j'étais assis dans un couloir en train de préparer la prédication pour aujourd'hui. Oui, hier. Et une vieille dame s'est approchée de moi. Une vieille dame s'est approchée de moi avec son déambulateur toute titubante et elle m'a dit « Mais pourquoi on nous emprisonne ici ?» Il faudrait que quelqu'un informe ma fille. J'avoue que j'étais très ému de constater la solitude de cette dame. Ça faisait 8 ans qu'elle était là. Et c'est vrai que nous ne savons pas très bien nous occuper, n'est-ce pas, de nos parents âgés. Et notre société, d'ailleurs, tend subtilement à les faire passer pour des fardeaux, hein, des choses encombrantes dans notre société. On est tenté de les voir comme des gens qui ont fait leur temps. Et maintenant, ils ne servent plus à rien. C'est la même chose avec les handicapés, d'ailleurs. On se dit inconsciemment que s'ils n'étaient pas là, ce serait quand même plus pratique. Et puis on se dit la même chose concernant les migrants et les SDF dans la rue et les jeunes des banlieues. Et la liste, on pourrait l'allonger. Mais Dieu ne veut pas les faire disparaître, ces gens-là. Il veut les réhabiliter. Il veut les rétablir. Autrement dit, il veut les sauver. Et il veut qu'en tant que croyants, nous, à notre tour, nous reflétions dans notre vie et dans notre service, il veut que nous reflétions cette volonté de Dieu à l'égard des plus fragiles. Alors bien sûr, nous ne pouvons pas, matériellement, offrir à tous les démunis, à tous les vulnérables, ce dont ils ont besoin. Mais en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous pouvons au moins refléter cette volonté de Dieu par nos paroles, par notre sollicitude, par certains de nos investissements, en temps et en argent, sachant que l'ultime réhabilitation des êtres humains se trouve où ? Elle se trouve dans la résurrection future, destinée à ceux qui sont attachés à Jésus par la foi. Alors vous voyez face à une personne handicapée de naissance, pour qui il n'y a aucun espoir de remède, de guérison physique ici-bas, nous savons très bien que nous n'allons pas pouvoir la rétablir pleinement dans la société comme une personne valide. Et nous pouvons lui manifester notre amour, notre sollicitude. Nous pouvons prier, nous pouvons être là pour elle, sachant que cette personne qui est aimée de Dieu, si elle est attachée à Jésus, elle sera un jour pleinement rétablie, au jour de la résurrection. Parce que c'est le projet de Dieu pour les hommes, y compris les plus fragiles. Enfin, la troisième et dernière chose que je veux vous faire remarquer dans ce texte, et c'est peut-être le plus choquant, c'est la façon dont Dieu veut subvertir ou révolutionner le rapport entre les classes sociales. C'est quelque chose qui m'a vraiment frappé en étudiant ce texte. Est-ce que vous avez remarqué au verset 5 et 6 que la loi de Dieu prévoit un scénario ridicule où l'esclave aurait envie de demeurer au service de son maître toute sa vie? Non mais c'est quoi cette histoire? C'est absurde qu'un esclave puisse avoir envie de rester un esclave, et pas juste pour 6 années de plus, hein, pour toute sa vie. C'est complètement inouï. Mais ce que Dieu nous montre ici, c'est que selon lui, le maître devrait chercher à être si bienveillant envers son esclave, telle est sa mission en tant que maître, en tant qu'israélite qui a chez lui des esclaves, il devrait chercher à être si bienveillant envers son esclave que celui-ci voudra rester auprès de lui, non seulement volontairement, mais en plus définitivement. Définitivement. Alors cette idée, bien sûr, elle est complètement révolutionnaire, comme je le disais, puisqu'elle retourne complètement sur elle-même la fameuse lutte des classes, où d'après cette théorie de la lutte des classes, les gens inférieurs, eh ben, non seulement ils veulent se libérer de la servitude des gens supérieurs, mais en plus ils veulent prendre leur place. C'est une lutte continue, permanente, entre ceux qui sont plus faibles et ceux qui sont plus puissants. Et Dieu, dans ce texte, il retourne complètement sur elle-même cette lutte des classes. Hein, imaginez un syndicaliste d'extrême gauche à qui on chercherait à expliquer, j'espère qu'il n'y a pas de syndicaliste d'extrême gauche ici cet après-midi, mais s'il y en a, vous êtes les bienvenus, hein, il n'y a pas de problème, je caricature peut-être un peu, mais imaginez un syndicaliste d'extrême gauche à qui on chercherait à expliquer que les conditions de travail peuvent, en principe, devenir d'une telle qualité pour le travailleur que l'existence même des syndicats deviendrait inutile et que personne n'aurait même envie de demander des augmentations de salaire ou de nouveaux droits sociaux. Le syndicaliste d'extrême gauche, il va vous rigoler, vous rire à la figure, quoi. Et c'est pas possible. C'est le rôle du syndicaliste, c'est dans sa nature de demander des augmentations de salaire. Comme le dirait peut-être Nathalie Arthaud, candidate aux élections passées, il est impossible qu'un patron soit bon. Les chefs d'entreprise sont par nature des méchants qu'il faut affronter, des voyous, des vilains. Les gens qui gagnent plus de 4000 euros sont forcément des égoïstes, des méchants dans la société qu'il faut combattre. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut nous faire comprendre dans ce texte. Hein. Non, pour lui, le plus important ici-bas, c'est pas qu'il y ait ou non des riches et des pauvres. C'est pas même qu'il y ait ou non des maîtres et des esclaves. Pour Dieu, le plus important, c'est la relation qui existe ici-bas entre les deux. Et pour Dieu, l'idéal qui nous est présenté ici, c'est que le maître soit si bon envers son esclave que ça ne gêne plus l'esclave d'être un esclave. C'est même mieux que ça. L'idéal, c'est que le maître soit si bon envers son esclave que l'esclave soit heureux d'être l'esclave de son maître et qu'il puisse faire une déclaration solennelle devant Dieu et devant la société de l'époque. J'aime mon maître et je suis prêt à ce qu'il me fasse un trou dans l'oreille pour marquer mon engagement à vie à son service. Dieu veut que les plus puissants contribuent au contentement des moins puissants au sein de son peuple. Évidemment, ce que ça veut dire pour nous, c'est que nous devons faire tout notre possible pour que les gens les plus fragiles autour de nous, surtout dans notre famille, surtout dans notre Église, ne vivent plus leur situation de fragilité ou de vulnérabilité comme une souffrance. Ne vivent plus leur situation de fragilité ou de vulnérabilité comme une souffrance. Donc les questions qu'on doit se poser, ce sont les suivantes. Est-ce que par mon indifférence ou par mes mauvais choix et mes mauvaises priorités, est-ce que je contribue à ce que cette personne âgée ait l'impression d'être un fardeau pour la société ? Est-ce que je contribue à ça ? Est-ce que j'ai une responsabilité dans le fait que ce malade ou cette personne handicapée dans mon entourage ou dans l'Église a l'impression d'avoir perdu sa dignité en tant qu'être humain ? Est-ce que j'ai une responsabilité là-dedans, dans la façon dont je me suis comporté avec elle, ou dans la façon dont je ne me suis pas comporté avec elle ? Qu'est-ce que je fais, pratiquement, qu'est-ce que je fais pour que cette personne de mon entourage puisse trouver le contentement, même dans la situation de pauvreté ou de fragilité matérielle qui est la sienne ? Qu'est-ce que je fais ? Et je ne parle pas de donner de l'argent, hein. Qu'est-ce que je fais pour que dans sa situation de pauvreté, comme ici, dans sa situation d'esclave, il puisse être heureux au sens du contentement, être satisfait. J'aime mon maître. Ça ne me dérange pas d'être esclave et de le rester le reste de ma vie. Ça ne me dérange pas si je dois rester pauvre jusqu'à ma mort. Ça ne me dérange pas qu'on ne puisse pas guérir mon handicap. Qu'est-ce que je fais vis-à-vis de ces gens ? Pour favoriser leur contentement dans cette situation. Alors vous voyez que Dieu porte un regard particulier sur la relation entre les plus puissants et les moins puissants dans la société, et tout particulièrement dans son peuple, la société que constitue le peuple de Dieu, la communauté de l'Alliance, l'Église chrétienne. Et on a vu que pour Dieu, tout être humain, indépendamment de sa situation sociale, a une extraordinaire dignité. On a vu aussi que pour Dieu, en raison de cette dignité, tout être humain est appelé à être racheté et restauré ou rétabli dans la société. Et si ça ne peut pas se produire ici, ça se produira dans la société à venir, après la résurrection et le retour du Seigneur. On a vu enfin que pour Dieu, le rapport entre les classes sociales doit être révolutionné de telle sorte qu'elles ne disparaissent pas forcément, mais que les moins puissants trouvent le contentement dans leur situation. Pourquoi ? Parce que les plus puissants vont exercer une bienveillance exceptionnelle à leur endroit. Mais, je sais que personnellement, j'ai tendance à faire tout l'inverse de ce programme. Qu'est-ce qui peut changer mon cœur ? Qu'est-ce qui peut changer mon regard sur les personnes les plus fragiles, sur les personnes les plus rejetées peut-être ? Et qu'est-ce qui peut augmenter ma compassion ? Et qu'est-ce qui peut augmenter ma motivation à rechercher et à défendre l'intérêt de ces gens qui sont plus vulnérables que moi ? C'est la dernière question que je veux poser, et comme toutes les dernières questions, la réponse est Jésus. C'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ qui peuvent m'aider, parce que tout ce qu'on a vu aujourd'hui se réalise en fait par excellence et de manière emblématique dans l'Évangile. L'Évangile qui est la bonne nouvelle de la venue et de l'œuvre de Jésus, de qui est Jésus et de ce qu'il a fait. Et que nous dit cet Évangile ? Cet Évangile nous dit que malgré notre péché, malgré nos fautes qui nous rendaient détestables aux yeux de Dieu, malgré notre chute dans le péché, nous avons tous en tant qu'êtres humains une extraordinaire dignité qui a été préservé. Parce que s'il y a quelque chose qu'on n'a pas perdu, c'est le fait qu'on a été créé à l'image de Dieu. Alors on est tombé, et on est tombé avec notre dignité qui ne nous a pas lâchés. Et donc aux yeux de Dieu, les êtres humains déchus sont quand même dignes. Ils ont quand même de la valeur parce qu'ils ont été créés à son image. Le pire des pécheurs vaut mieux qu'un légume ou qu'un animal. C'est pourquoi Dieu est venu par Jésus-Christ dans la chair d'un homme, et pas dans la peau d'une banane ou dans la peau d'une girafe, d'accord ? Il est venu pour nous sauver, nous les êtres humains. en raison de cette dignité, de cette valeur que nous avions aux yeux de Dieu. Il a donné sa vie comme prix de notre salut, comme prix de notre pardon, comme prix de notre réconciliation avec Dieu, comme prix de notre réhabilitation dans l'éternité. Si nous plaçons notre foi en Jésus, Dieu nous rachète. Il nous rachète pour nous rétablir. Il déverse d'ailleurs son Saint-Esprit dans le cœur des croyants pour les aider à marcher selon ses voies. Et tout au long de notre vie chrétienne, Dieu nous corrige et il nous conduit. Et en fin de compte, il va pleinement nous guérir de toutes nos maladies et nous délivrer de toutes nos difficultés, de toutes nos souffrances. Et il va nous restaurer, il va même nous glorifier. Et tenez-vous bien, puisque Dieu a fait ça pour nous, un si grand prix, puisqu'il nous a manifesté une telle bienveillance, alors nous avons naturellement envie de servir Dieu, de lui appartenir pour toujours. Parce qu'il nous a prouvé sa bienveillance, nous voulons profondément, sincèrement, nous voulons être à notre tour les esclaves de Dieu, comme nous le rappelle Paul, l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains chapitre 6, esclaves de Dieu, esclaves de Christ, esclaves de la justice, pour toujours. Vous savez, le livre de l'Exode, comme d'ailleurs le livre de notre vie, si nous sommes chrétiens, c'est le récit d'une délivrance opérée par Dieu. Mais ce n'est pas juste ça. Parce que Dieu, il n'a pas délivré les Israélites pour qu'ensuite ils puissent faire ce qu'ils veulent. Voilà, je vous ai libérés, vous êtes libres, allez-y, envolez-vous, partez, prenez votre envol comme, j'allais dire comme le vent, mais le vent, il vole pas, il souffle, enfin bref, je me suis mélangé dans mes métaphores, c'est pas grave. Et de la même façon, Dieu nous a délivrés du péché et de la mort, mais pas pour qu'on puisse faire ce qu'on veut. Ça, c'est la liberté telle que nous la comprenons dans le monde, quoi, humainement. La liberté, c'est de faire ce qu'on veut. Mais la liberté dans le livre de l'Exode, et la liberté dans la Bible, et la liberté dans la vie d'un chrétien, c'est pas de faire ce qu'on veut. C'est la liberté de suivre Dieu. C'est la liberté de lui appartenir et d'être son serviteur pour toujours. Nous étions asservis au péché, comme les Israélites étaient asservis à l'Égypte, et maintenant Dieu nous a rachetés pour lui-même. Il nous a rachetés pour que nous le servions, plutôt que nous servions le Pharaon ou le péché. Et parce que Dieu nous a manifesté un tel amour, que pourrions-nous faire d'autre que nous engager de tout cœur à son service, pour toujours, et avec une infinie reconnaissance. Et vous voyez, mes amis, c'est par le rappel de ce précieux évangile que nos cœurs peuvent changer, et que notre regard sur les autres, sur les plus faibles notamment, peut changer, et que nous pouvons trouver la motivation profonde pour faire ce que Dieu nous demande. Prions. Merci notre Dieu, notre Père, de nous avoir délivrés de la servitude du péché pour que nous t'appartenions. Nous sommes libres de t'appartenir, libres de te suivre, libres de te servir. Et c'est ce que nous voulons faire parce que nous voyons à quel prix tu nous as rachetés, Seigneur, nous qui ne le méritions pas. S'il te plaît maintenant, aide-nous à nous rappeler cet évangile chaque jour, cette bonne nouvelle de ce que tu as fait pour nous par Jésus-Christ. Et que cet évangile transforme notre vie, transforme notre conduite, transforme nos pensées, nos motivations et notre vision du monde. Te le demandons au nom de ton Fils, Jésus. Amen.